Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Dans une semaine, les dés seront jetés pour les près de 650 000 élèves de terminale, invités à formuler leurs vœux d'orientation sur la plateforme Parcoursup. Alors cette année, verra-t-elle se reproduire encore une fois les mêmes biais de genre dans les choix des unes et des autres? Il y a fort à parier que oui. En 2022, en tout cas, le collectif Maths et Sciences, regroupant de nombreuses associations de profs du second degré, alarmé sur la chute inédite du nombre de lycéennes inscrites dans les filières scientifiques. Moins 28% de filles en terminale scientifique entre 2019 et 2021. Moins 61% dans les spécialités maths. Le même collectif avait alors comparé les chiffres de 2019 avec ceux de 1994. Si en l'espace de 30 ans, le nombre de filles en filière scientifique était passé de 40 à 47%, il était redescendu à 44% en 2021. Quant à la spécialité maths, elle a vu en 30 ans sa fréquentation féminine passer de 40 à 35%. Comment expliquer ce recul des filles dans les filières scientifiques alors qu'elles réussissent globalement mieux que les garçons dans toutes les filières d'ailleurs? Une des hypothèses est la forte prévalence des stéréotypes de genre orientant davantage les filles vers des carrières littéraires, quand les garçons, eux, se verraient naturellement plus portés vers les mathématiques. Et le plus dommageable est que l'intériorisation de ces stéréotypes de genre commence bien souvent dès le primaire. À Montpellier, une équipe de chercheuses et chercheurs en robotique, en informatique, en psychologie sociale ont eu l'idée d'associer leurs compétences et d'utiliser l'intelligence artificielle pour analyser les stéréotypes de genre dans la perception des capacités mathématiques en mettant en place une expérience d'interaction entre un robot et une classe d'enfants de 7 ans. Notre invitée est informaticienne, enseignante chercheuse à l'Université de Montpellier et au laboratoire d'informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier, le LIRM. Elle a participé à cette étude qu'elle détaille avec nous pendant les 20 prochaines minutes. Madalina Croitureux, bonjour et bienvenue dans Allume la science.
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
Et je rajoute la deuxième casquette, vous êtes également en thèse, donc en deuxième année de thèse en sciences cognitives, c'est bien ça?
Oui, c'est cela.
Avec le laboratoire donc, qui est partenaire de l'étude Epsilon.
Epsilon, donc du coup l'étude dont on parle, c'est fait avec aussi mes encadrants de thèse.
Super. Elle est le X sans lequel l'équation de cette émission ne tomberait pas juste. Avec moi pour mener cette interview, Aline Perriot.
Bonjour.
En deuxième partie d'émission, nous restons dans le domaine de l'éducation puisque c'est la faculté de sciences qui nous accueille pour nous faire découvrir pendant quelques semaines ses équipements pédagogiques. Et on commence aujourd'hui avec la cavité laser. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54.
Alors, Madalina Croitureux, avec cette étude, vous avez étudié l'utilisation de la robotique sociale dans l'éducation. Alors, est-ce qu'on peut commencer par définir brièvement ce que c'est que la robotique sociale?
Oui, donc, moi, à la base, je suis informaticienne. Donc, tous mes travaux de recherche avec mon casquette d'informaticien, je l'ai vu depuis 20 ans dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et avec tous les développements récents de l'intelligence artificielle, et on va parler plus tard aussi de ChatGPT, je me suis rendu compte que l'interaction avec l'humain, elle est très importante. Et c'est pour ça que depuis 2 ans, je fais partie d'une équipe de robotique au LIRM, dans laquelle on étudie exactement ça, l'interaction avec les humains. La robotique sociale, ce qu'elle fait de façon très générale, regarde comment on peut interagir entre le robot, la machine, quelle qu'elle soit, et l'humain.
Alors l'expérience que vous avez menée là, elle consistait d'abord à faire interagir des enfants de 7 ans avec un robot. Comment est-ce que vous l'avez eu, l'idée de cette expérience?
Moi, j'ai fait mes études en Roumanie. J'ai fait là-bas mon université et j'étais toujours dans une filière très, très maths, mais on était toujours moitié fille, moitié garçon. Après, j'ai fait mes études de doctorat et mon postdoc en Angleterre. Et pareil, il y avait une forte population féminine dans mon domaine. Et en arrivant en France, une fois que j'ai eu des enfants, je me suis rendu compte qu'il y a de moins en moins de filles qui poursuivent cette direction. Et je me suis interrogée, qu'est-ce qui se passe? Après, un soir, je mangeais avec les enfants, on était tous à table, et mon fils qui avait 7 ans, mais maintenant il est plus grand, il me dit « Maman, tu sais, les filles sont nulles à maths. » Et il sait très bien que ma carrière, elle est très mathématique. Et donc du coup, ça m'a surpris qu'il me le dise à moi. Et je lui dis « Mais comment tu sais ?» Il me dit « Mais oh, tout le monde le sait. » Et du coup, ça m'a surpris que déjà à son âge, on a ce genre de perception qui n'est surtout pas encouragée par ses profs. Ses profs, ils n'encouragent pas ce genre de perception, mais elle existe. Donc, je me suis penchée sur la question. Je me suis rendu compte qu'il y a plein des études qui montrent que c'est à cet âge qu'on forme les biais de genre. Et je me suis dit, voilà, on va mettre une petite expérimentation en place. Comme ça, il va voir que... D'une côté, maman, elle est bonne à maths. Et de l'autre côté, on va voir si ce genre de biais, il peut être un petit peu modifié.
Alors, on imagine que pour créer cette interaction entre enfants et robots, la forme du robot a peut-être une plus grande importance qu'avec des adultes. Est-ce que vous pouvez nous le décrire, ce robot? Il s'appelle QT, c'est ça?
Oui, donc le robot, il s'appelle QT. C'est un jeu de mots, parce qu'en anglais, cutie, ça veut dire mignon.
Je l'avais pas compris.
Et en plus, bon, quand on l'écrit, c'est cutie, donc ça fait un peu cool. C'est un robot qui est développé par un spin-off de l'Université de Luxembourg, c'est LuxAI. Et bon, déjà, il est très mignon parce qu'il a des formes très rondes, mais là, je suis très biaisée, je ne sais pas. Bien sûr qu'il y a une côté personnel de perception qui est importante dans l'interaction. Moi, je le trouve très mignon, il a un bidou de fou. Dans son bidou, il a un ordinateur qui est très puissant. Et après, sa tête, elle est aussi un peu plus grande que son corps, donc du coup, ça fait appel à ce genre de proportion de bébé. Donc ça aussi, ça le rend plus mignon. Et sur sa tête, on a un écran et un deuxième petit ordinateur pour tout ce que c'est perception.
Alors, on parle donc en robotique sociale, c'est des robots qui sont censés imiter le comportement humain. Et pour ça, il y a plusieurs éléments techniques qui sont nécessaires, à commencer par les capteurs qui leur permettent de percevoir leur environnement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont ces capteurs et quelles capacités de perception et d'interaction ils donnent à ces robots?
Donc ça, c'est une excellente question, parce que depuis le début de l'intelligence artificielle, dans les années 50-60, une des domaines privilégiés, c'est exactement ça. Comment on peut, machine, comme algorithme, reprendre les informations d'interaction des humains. Donc tous ces capteurs, ils ont été développés, c'est des capteurs de perception. Après, une fois qu'on capte des images, des sons, il faut savoir ce que ça veut dire. Et tous les développements récents d'intelligence artificielle depuis 2006 font que ce genre de compréhension de ce qu'on perçoit, elle a beaucoup amélioré. Mais dans votre question, vous avez dit une chose très importante, c'est pas que l'imitation de comportement humain qui est important dans ce genre de robot, mais c'est surtout le confort de l'humain par rapport à l'interaction avec le robot. Même si le robot se comporte comme un humain, c'est très connu, par exemple, s'il est trop humain, c'est l'effet Uncanny Valley, ça ne nous plaît pas. Donc il faut que nous, comme humains, on se sent à l'aise par rapport à cette interaction-là. Je ne sais pas si ça veut dire qu'il faut qu'elle imite exactement un humain ou qu'elle nous rassure dans ce que nous, on pense qu'un robot devrait être. Mais c'est exactement le cœur de travail de mon équipe et c'est pour ça que c'est chouette d'avoir ce genre d'approche pluridisciplinaire entre la perception humaine, qui relève de la psychologie, tout ce que c'est intelligence artificielle qui relève de la manipulation de données, la compréhension de données, et la robotique par rapport au mouvement du robot et l'interaction.
Alors ce robot, il est également doté d'un LLM, un Large Language Model. Alors pour les auditeurs, beaucoup vont se dire qu'est-ce que c'est? Pourtant on sait bien ce que c'est, on en entend de plus en plus parler. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement?
Oui, donc... L'intelligence artificielle a passé par plusieurs vagues de mode. Elle a toujours relevé de l'imaginaire. Tout le monde rêve de ce monde dans lequel il y a les robots qui font des choses. Parfois, ça fait peur, parfois, ça fait rêver. Et récemment, avec le développement de ChatGPT de l'entreprise OpenAI, on a vu qu'il y a plein de choses qu'on pourrait faire, qu'on ne pensait pas possible avant avec les méthodes qui était plus mainstream de l'intelligence artificielle. Donc ces méthodes sont basées sur des grands modèles de langage, ça veut dire vraiment, quand je dis grand, c'est énorme, il y a des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de données. Si on n'a pas les données, ça ne fait rien, c'est pour ça que les données sont importantes dans ce cas-là. Et basées sur ces données, un traitement statistique qui fait qu'on a des réponses, mais des réponses qui sont purement statistiques. Voilà, c'est pas des réponses qui sont réfléchies, comme nous, on a l'habitude de faire. C'est vraiment comme on a des petits automatismes de langage quand on complète une phrase par rapport à ce qu'on a attendu, etc.
Mais qui donne une impression de dialogue ultra fluide, effectivement.
Mais exactement, et ça, c'est très important de garder en tête que ça donne l'impression de dialogue ultra fluide, parce que ça répond à nos attentes, mais c'est une impression. C'est juste un énorme ordinateur qui d'ailleurs consomme beaucoup d'électricité, ça il faut faire attention, qui juste mâche des données.
Alors justement, dans le dialogue, ce robot, vous nous l'avez décrit tout à l'heure, Qt, il a un écran d'affichage qui lui permet d'exprimer des émotions. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles émotions il est capable d'exprimer, ce robot ?
Donc l'avantage de ce robot, c'est ce que vous dites, vous. On a cet écran, et comme c'est un écran, comme un écran de tablette, on peut dessiner des smileys. Donc il y a les 6 émotions de base qui sont exprimées. Donc il y a le robot qui pleure, il y a le robot qui est content, etc. Et ça, c'est plus compliqué à faire avec d'autres types de robots dans lesquels le visage il est plus figé. Par exemple, le robot Pepper, dans lequel, par contre, par rapport à si on veut faire passer de l'émotion, on le fait passer par la voix. Qt, lui, il a une voix très stable, très, très neutre. Donc il ne permet pas les modulations de la voix en colère ou de la voix heureuse. Mais on a cet avantage de display visuel, des smileys, qui rend très bien avec son look. Hein.
Alors, il est également capable de décrypter les émotions de la personne qui lui parle. Ça, c'est assez fou. Donc, on est toujours sur les 6 émotions de base, c'est ça? Comment ça fonctionne? Comment il sait si on est en colère ou si on est triste ou si on est content?
Donc, comme je disais, c'est comme nous, comme les humains, mais ça, il faut faire attention de faire trop de parallèles avec les humains et les robots. Il a son ordinateur dans le ventre, et il a son ordinateur dans la tête. Et son ordinateur dans la tête, ce qu'il fait, c'est qu'il prend les images, et en fonction des images qu'il a eues, et là, on revient sur cette idée de « j'ai vu beaucoup, 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 beaucoup des images », il a été entraîné pour dire « ce genre de visage correspond à tel genre d'émotion ». Mais attention, ça ne va pas dire qu'il comprend, ça ne va pas dire que si il va détecter qu'on fronce les sourcils, donc on est en colère. Pour lui, c'est juste des pixels, et il a cette association faite entre ce genre de visage et une telle émotion.
Donc il a une caméra en fait.
Il a une caméra dans la tête, ouais. Et il a aussi un micro.
Alors sur l'analyse des émotions, il y a une difficulté que vous avez rencontrée, c'est qu'il n'y avait pas d'ensemble de données français pour analyser les émotions, et vous avez adapté un ensemble de données anglais. Est-ce que ça change quelque chose au résultat final que les données en termes d'émotions, elles soient de base en français, en anglais, en chinois ou dans n'importe quelle autre langue?
Bien sûr. Donc ça, c'est un vrai problème de recherche qu'on est en train de résoudre en ce moment. Donc, comme je disais, cette étude, c'est une étude qui a été faite en mai l'année dernière, dans la classe de mon fils. Le papier, il a été écrit dans la foulée en juin et a été présenté en décembre. Mais depuis le temps, on a un nouveau projet qui est financé par la région. Et dans ce projet, on se penche avec Constantine Todorov et notre trésor, Florian Lecourt, sur ce problème, sur un texte donné, comment on peut détecter les émotions. Il y a plein des approches qui sont sorties récemment sur des différents jeux de données, sur des différents types d'émotions, sur des différentes façons d'annoter les émotions, fait par qui, etc. Donc oui, dans ce papier, on a pris une approche vraiment de base. Mais en ce moment, on regarde si on peut construire des données. Parce que comme je disais, ce genre d'approche, si on n'a pas les données, on n'a rien. Mais il y en a plein dans la littérature. On a trouvé beaucoup.
Alors maintenant qu'on a bien décrit ce robot, on va parler un peu des enfants. Donc vous nous l'avez dit, c'était la classe de votre fils. C'était une classe à Montpellier?
Oui. C'est l'école Vasco de Gama, dans le quartier Les Aubes.
Alors, 7 ans, ça correspond à un CP, CE1?
Oui, ils étaient tous en CP.
Et est-ce qu'ils ont été préparés, ces enfants, avant l'arrivée du robot?
Donc, j'ai eu une chance énorme, parce que la direction de l'école, ils ont été super contents pour moi de venir et de montrer le robot aux enfants. Donc, ils leur ont dit qu'il y a un robot qui va venir. Et après, bien sûr, mon fils, hein, il a parlé à tout le monde. Donc, quand on est arrivé avec le robot, tous les enfants, ils étaient super contents. On l'a caché, parce qu'on va expliquer un petit peu plus tard ce qu'on a fait. On l'a caché, donc il voyait la grande boîte. Je leur ai parlé un petit peu des LLM. Je leur ai dit de ne pas faire confiance. Il faut toujours se méfier de ce que ChatGPT dit. Je pense que plus tôt on les prend, mieux c'est. Et après, on a fait l'expérimentation dont on va parler.
Alors voilà, l'expérimentation justement. Pour commencer, vous avez demandé aux enfants de répondre à un questionnaire pour analyser leurs stéréotypes de genre avant et après l'interaction avec le robot. Et pour ça, vous avez collaboré avec des chercheurs en sciences humaines. Donc vous nous avez parlé tout à l'heure du laboratoire Epsilon. Et qu'est-ce qu'ils ont élaboré comme questionnaire? Est-ce que vous pouvez nous donner des types de questions que vous avez posées aux enfants pendant l'expérience?
Donc là, effectivement, je collaborais avec mes deux encadrants de thèse. Eux, ils ont l'habitude de faire ce genre de questionnaire. Et nous, ce qu'on aimerait voir à la fin de cette expérimentation, c'était si l'interaction entre les enfants et un robot genré fille ou l'interaction entre les enfants et un robot genré garçon, par rapport à des compétences en maths, donc par rapport à des questions de maths de leur âge, ça peut changer leur perception de biais de genre. Mais par rapport à ça, il faut aussi voir quelle est leur perception par rapport à leur devoir de maths. Est-ce qu'ils se sentent incompétents par rapport à leur devoir de maths? Quel est leur sens d'efficacité? À quel point les devoirs, c'est important pour eux? Et après, bien sûr, les questions de genre par rapport à des filles et des garçons. Et aussi des questions pour la suite. Est-ce qu'ils s'imaginent le robot en étant un garçon ou une fille?
Alors, comment vous l'avez genré, justement, ce robot?
Donc, on a discuté en famille. Et ma fille, elle avait 3 ans à l'époque. Elle était généreuse. Elle a donné une petite jupette en toile rose. Donc, on ne peut pas faire plus genré que ça pour le robot fille. Ça lui allait très bien. Et par rapport au robot garçon, il avait une petite cravate bleue. Oui, parce qu'on y va à fond dans les biais.
Et l'interaction du coup qui a eu lieu entre les enfants et le robot, ça consistait en quoi? Qu'est-ce que les enfants ont dû demander au robot justement? Comment ils leur ont discuté? Comment ils leur ont parlé?
Donc ça, c'était très chouette. Donc, au moment où on a splitté la classe en deux, il y avait une moitié de la classe qui interagissait avec le robot, peut-être que les autres, ils attendaient. Donc j'avais 10 enfants devant moi et le robot. Le robot, comme je disais, il a un micro, il a des enceintes, donc il attend ce que les enfants disent. Et après, avec une LLM, il peut leur répondre. Donc au début, ils étaient un peu timides. Je leur expliquais, il y a aussi des limitations par rapport à la robotique sociale. C'est que pas tous les enfants peuvent parler en même temps. Ça, c'était la chose la plus compliquée à gérer. Mais une fois qu'ils ont compris qu'ils peuvent passer un par un et poser des questions de maths, il y en avait même un enfant, il m'a surpris. Il m'a demandé, est-ce que je peux lui donner une question très difficile? Et je lui dis oui. Et il dit au robot, infini plus 3. Voilà, ça, c'est la classe.
Et justement, si on vient au résultat de l'expérience après cette discussion, déjà, est-ce que les enfants, ils ont tous genré le robot? Est-ce qu'ils ont tous dit après, moi j'ai parlé à un robot fille ou à un robot garçon? Ou est-ce que ce n'était pas unanime?
Donc après coup, oui. Après coup, tous les enfants, ils ont dit, parce qu'une des questions de la fin, c'était, est-ce que le robot que vous avez vu, c'est une fille ou un garçon? Et pareil, là, on laissait une échelle pour qu'ils choisissent. Et tous, ils ont choisi un genre de robot. Mais de l'autre côté, c'est ce qu'on leur a présenté aussi. On ne leur a pas présenté le robot, à poil. Hein.
Donc, et du coup, vous avez fait aussi, vous nous avez expliqué rapidement qu'il y avait une expérience au cours de laquelle vous avez demandé aux enfants de dessiner des robots.
Oui. Donc, ce qu'on a fait, et ça, c'était vraiment impressionnant, ce qu'on a fait, c'est avant l'expérience dans laquelle on a un petit formulaire de début, après, on a les questions de maths, 3 bonbons plus 5 bonbons, etc. Et après, on a les questionnaires à la fin. Et parce qu'il y avait toujours un groupe qui faisait soi-disant rien, je leur demandais de dessiner le robot. Donc, il y a tous les enfants qui ont dessiné le robot avant interagir avec le robot et après interagir avec le robot. Et quand ils ont décidé de dessiner avant, leurs dessins, ils sont très schématiques. Il y a beaucoup du blanc et noir, il y a beaucoup des angles droits, etc. Et les dessins après, ils sont vraiment impressionnants. Il y a beaucoup de couleurs, le robot, il fait plein de choses, même pas de maths. Hein, le robot, on a des robots qui vont cueillir des fleurs, le robot qui va aller dans l'espace. Et aussi, il y a un enfant qui a dessiné un robot coupé en deux. La moitié en jupe et l'autre moitié en cravate. Donc après lui, cet enfant, il a décidé si c'est fille ou pas, mais ils ont bien compris le principe.
Alors si on regarde les résultats encore une fois sur les questions relatives aux mathématiques, est-ce que par exemple il y a des différences avant et après la rencontre avec le robot? Est-ce qu'ils aiment plus les maths? Est-ce qu'ils sont plus capables de faire leurs maths? Et est-ce que des biais genrés ressortent.
Donc, de mon point de vue, comme je disais, dans l'expérience, elle était faite sur 20 enfants. Donc, du point de vue statistique, on ne peut vraiment pas tirer des conclusions. C'est vrai que dans le papier, j'ai mis des stats, parce que voilà, on avait les données, on peut mettre des stats. Mais moi, je me méfie beaucoup de tirer des conclusions là-dessus. Pour moi, le plus important, c'est les deux leçons, les deux expériences que les enfants ont eues. D'abord, de ne pas faire confiance à tout ce que c'est ChatGPT, parce que je leur disais, non, mais vérifiez là si le robot il a raison, c'est pas sûr, hein, etc. Et la deuxième chose, d'être exposé à cette fluidité de, finalement, fille ou garçon, c'est des maths, hein, ça n'a rien à voir avec le genre. Hein.
Et alors, même si ce n'est pas significatif, hein, vous nous l'avez bien dit, mais on note quand même dans la publication qu'après l'interaction avec le robot, les filles de la classe ont changé d'avis et estimé que les garçons étaient meilleurs en maths. Est-ce que vous avez une idée pour expliquer ce résultat ?
Aucune idée. Mais encore une fois, c'est 10 enfants, ça veut rien dire, je ne sais pas.
Alors, une des autres différences, qui était assez amusante, c'est qu'au final, après avoir discuté avec les robots, les enfants, ils accordent moins d'importance à la réussite en mathématiques.
Oui, mais ça, par contre, c'est quelque chose que moi, je trouve bien. Je trouve bien parce que ça permet aux enfants d'être un peu plus relax et d'être dans une bonne interaction avec le robot. Et je me suis posé plein de questions par rapport à ça et je me suis dit comment les enfants d'aujourd'hui, d'ailleurs, vont travailler avec tous ces outils genre ChatGPT qui peuvent être ou pas incarnés dans des robots companion, etc. Et du coup, la question se pose, est-ce que les enfants vont se dire « Non, mais c'est ma calculatrice, mon robot, etc. qui va tout faire » ou est-ce qu'il va avoir une vraie interaction, un vrai attachement à ce genre de compagnon d'enseignement ?
C'est l'objet d'un nouveau projet de recherche, c'est ça ?
C'est ça. Donc sur ça, on est en train de travailler. Il y a eu beaucoup de travaux en psychologie par rapport à la théorie de l'attachement. On a vu, on fait ça quand on est bébé, même pour l'adolescence, etc. Il y a eu beaucoup de théories sur l'attachement par rapport aux animaux de compagnie. Mais par rapport à tout ce que c'est robot, pour l'instant, on n'a pas ce genre d'études. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, vu tout ce que c'est en train de se faire par rapport à... Il faut vraiment réfléchir à une nouvelle façon de faire de la pédagogie. Je pense aussi que la technologie est un vecteur pour tout ce que c'est apprentissage. Il faut l'utiliser genre comme un exosquelette pour nous aider dans nos mouvements. Ce n'est pas, c'est pas la compétition. Au contraire, c'est notre aide. Et par rapport à ça, ce qu'on est en train de faire aussi au LIRM, en collaboration avec Ganesh Gaurishankar, on est en train de faire une série des ateliers de médiation à la médiathèque avec des enfants qui vont de 3 ans jusqu'à 12 ans sur des différents types de technologies. Par exemple, on vient d'avoir il y a 2 semaines un atelier par rapport à un 6e doigt. Par rapport à l'apprentissage pour que les enfants comprennent comment les robots marchent. Dans 2 semaines, on va faire un storytelling avec les Q-tips pour les 3 ans, justement pour essayer de comprendre comment toutes ces technologies, robotique sociale ou robotique, peuvent aider les enfants dans leurs tâches d'apprentissage.
Alors justement, si on généralise un petit peu, selon vous, quelles seraient les limites pour l'instant de l'intelligence artificielle dans l'éducation, de ce que ça peut apporter ou pas ?
Moi, je pense que comme ça est venu très rapidement, ces grands modèles de langage, et ChatGPT, etc., on n'a pas eu le temps de se adapter. Depuis que ça a apparu, depuis 2 ans, moi, je refais chaque année mes cours, c'est vraiment invivable. Et ça, c'est qu'au niveau informatique où il y a du code, etc. Mais tous mes collègues, tous mes copains qui enseignent, ils ont le même problème. Donc, on n'a pas eu trop le temps de se poser, de réfléchir. Il y a plein de projets qui se mettent en place en ce moment. Mais encore une fois, il faut comprendre qu'est-ce que c'est un grand modèle de langage, qu'est-ce que ça produit. Ça produit juste des signes qui suivent un après les autres, de point de vue statistique, qui se trouve que pour vous qui parlez français, ont du sens en français. Et il faut aussi réfléchir comment on l'utilise dans notre avantage. Parce que si on se braque, on dit ça n'existe pas, on l'interdit, on coupe le Wi-Fi, etc. Ce n'est pas une façon de travailler. Donc pour l'instant, je suis vraiment très curieuse de voir d'ici 5 ans ce que ça donne. Mais c'est pour ça aussi ma démarche de faire une deuxième thèse en psychologie, d'initier cette série d'ateliers avec les enfants, vraiment de comprendre hands-on ce processus.
Merci beaucoup, Badalida Croatourou, pardon. Et revenez quand vous voulez dans Allume la Science.
Avec plaisir.
Et on passe maintenant à notre séquence reportage, Aline.
Oui, et aujourd'hui, nous partons sur le campus Triolet pour assister aux travaux pratiques ondes, électromagnétisme et optique dirigés par les enseignants-chercheurs Thierry Guillet et Steve Cronenberg. Et nous allons suivre deux étudiants qui ont 4 heures devant eux dans le noir complet avec comme objectif de réussir à obtenir un effet laser.
Je m'appelle Jérémy et je suis en L3 de physique fondamentale.
Je m'appelle Ryan, je suis en L3 CUPGE à Montpellier. Alors, on est en train d'essayer de mesurer un petit peu l'intensité d'un laser avec un interféromètre, un certain système physique qui permet de créer des interférences avec... alors là, ici, c'est de la lumière.
Et donc, sur ce TP, là, vous avez une grande règle graduée qui doit faire 1,80 m.
Tout à l'extrémité, moi, ce que je vois, c'est une espèce de grosse ampoule avec une lumière rouge. Donc, c'est de là que part le laser?
Oui, ça, c'est en fait un... C'est un laser qui est composé de deux gaz, ouais, donc d'hélium et de néon.
C'est une ampoule qui est remplie de ce mélange d'hélium et de néon, un petit peu comme le tube néon classique, mais la composition du gaz est différente, donc c'est rosé au lieu d'être blanc. Et vous avez aux deux extrémités deux électrodes, et on fait un éclair. Mais quand dans la nature il y a deux nuages chargés, ou il y a un nuage et le sol qui sont à des tensions très différentes, des potentiels très différents, bah, du coup l'éclair il fait un zébra assez complexe. Et là, vous avez un éclair parfait. C'est-à-dire que c'est un éclair qui ne fluctue pas dans le temps, qui est parfaitement droit. C'est un éclair de laboratoire. Et il n'est pas dans une atmosphère avec de l'oxygène, du CO2, du diazote. Il est dans une atmosphère d'hélium et de néon qui lui donne une couleur spéciale.
Ce laser, une fois qu'il sort donc de cette première boîte sur la trajectoire, il y a plusieurs objets, dont un disque. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ?
Alors il y a un diaphragme, c'est ce qui permet de pouvoir un petit peu couper, ce qui sort du rayon laser, c'est de base c'est sphérique. On n'a pas un faisceau qui est parfaitement droit, et on a un peu de perte. Là par exemple si on l'enlève, il va y avoir, vous voyez, c'est pas du tout beau, c'est tout moche.
On a une espèce d'aura.
Ouais, c'est très diffus, du coup nous on veut garder le truc le plus central pour pouvoir faire les meilleures mesures possibles.
L'iris, ce n'est pas juste pour que l'auréole, là, elle soit plus petite. C'est pour que la lumière qui est sortie, avec un miroir extérieur, on la renvoie exactement dans le trou pour qu'elle fasse des centaines d'allers-retours avant de ressortir.
Et ça provoquerait quoi, ça ?
L'effet laser. Pour le moment, il n'y a pas d'effet laser. Ça, ce n'est pas un faisceau laser. Un faisceau laser, c'est un point rouge sur un écran, comme quand on est dans une salle de conférence avec un point rouge. Et ils vont la voir tout à l'heure. Mais là, ils n'y sont pas encore.
Tu as regardé si le retour était bon ou pas sur à côté, genre si c'était à côté.
Oui, moi je le vois dans l'axe là.
Ouais, il m'a l'air d'être dans l'axe.
Donc peut-être c'est. Est-ce que le diaphragme n'est peut-être pas un peu trop.
Oh, il y a un point rouge.
Eh oui, il y a un point rouge. Bon, alors du coup, on a essayé au maximum. Il faut être très précis. On a joué sur les miroirs pour que ça rentre exactement par là où c'est sorti, en fait. Sauf que c'est assez galère, parce qu'il faut se rendre compte que ce qu'on voit ici, c'est en forme d'arc de cercle, je sais pas si vous voyez. Il y a un petit point juste au-dessus blanc, je sais pas si vous le voyez un peu. Là.
Si, ouais.
Voilà, celui-là. Et en fait, il faut pas chercher à avoir tout le signal, il faut chercher à avoir ce point-là pour le renvoyer pile par là où il est passé. Ça fait un jeu de miroir-miroir. Ça excite, enfin ça désexcite les atomes qui émettent un photon. Sauf que ce photon, il y a tellement de photons, il se passe tellement de choses qu'il arrive malgré ce à traverser le miroir et jusqu'à avoir une image. Ça c'est un écran, c'est pour justement voir l'image. Et là on l'a eu, on a galéré mais on l'a eu.
Et maintenant vous allez devoir faire quoi avec cette image ?
Plusieurs choses, on va devoir prendre le spectre, la puissance et prendre des petits clichés en fonction de quand on décale le miroir. On va avoir certaines formes qui vont apparaître. Et ça c'est encore autre chose. Donc là, on a fait que la première partie du TP, mais je pense que c'était la plus compliquée.
Maintenant que c'est réglé, vous regardez si vous êtes capable de... Est-ce qu'il y a mieux à faire ? Donc vous allez mettre ce diaphragme entre le miroir et votre tube. Il va falloir le rattraper.
Okay.
Mais en fait, ensuite, vous allez centrer ce diaphragme sur le rayon laser.
Okay. Mm-hmm.
pour que dans la suite, quand vous allez devoir faire des mesures en fonction de la longueur de la cavité, ben vous puissiez faire le réglage simplement. Vous pourrez renvoyer directement la lumière dans le diaphragme, et là tout de suite vous allez aller voir l'effet laser, qui est beaucoup plus dur à avoir quand la cavité est longue, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, ben, l'angle solide d'acceptance, hein, il se réduit en fonction de la longueur de la cavité, et vous n'avez plus le droit à l'erreur quand vous êtes à une cavité qui fait un mètre. Dès que vous vous trompez un peu, l'effet laser disparaît.
Allumulation, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Robin Layou pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science, la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.